Bien, nous allons commencer d'abord par la prière. Seigneur notre Dieu, je remets entre tes mains ce message et je te prie de préparer les cœurs, que chacun reçoive ce que tu lui permets de recevoir. Et je te prie par avance de me pardonner dans mes explications, dans mes interprétations. Je peux être à côté. Je veuille me pardonner de mettre de côté tout ce qui vient de moi, mais que mes frères et sœurs ne puissent garder que ce que toi tu permets qu'ils gardent. Merci Seigneur, en ton saint nom, amen. Amen. Avant de commencer le message, quelques précisions. C'est de notre rôle, notre devoir que d'expliquer. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la vie d'une église. Je sais que tu as amené la vie, donc on a une discussion. Et c'est vrai que ça te change un peu par rapport à ce qui se passe à l'Afrique. Tu m'as raconté, c'est très intéressant. C'est un autre niveau. D'abord, il y a plus de monde. Il y a une vie dans l'église, au point que là où tu viens, tu m'as dit qu'il y avait même deux cultes. Il y en a deux rassemblements. Alors, le mot culte, c'est rassemblement, c'est messe. Voilà. En fait, c'est les mêmes termes qui changent. Le premier commence, tu m'as dit, à 7 heures du matin. Et oui, voilà, pour vous dire, vous voyez, c'est bien de découvrir ce qui se passe ailleurs, et ça nous donne un petit peu, pour savoir qu'on est tous chrétiens dans le monde, mais il y en a qui se réunissent et qui viennent à 7 heures, le premier culte jusqu'à 10 heures, à peu près, et le deuxième,
de 10 heures jusqu'à 12 heures.
Voilà. Il y a tellement d'effervescence qu'il y a des équipes d'intercesseurs, Je vais expliquer. Vous voyez, la vie de l'Église, il n'y a pas que le Creusot. On est une petite communauté chez le Seigneur, mais on fait partie d'une communauté mondiale, je dirais, les chrétiens dans le monde, d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est pour ça, on ne les voit pas, mais sont nos frères et sœurs. C'est Clélia ou Clélia ?
Clélia.
Clélia. Ne t'énerve pas. Bon, Clélia. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à un fonctionnement d'une Église.
Oui, en fait, moi, j'ai été baptisée.
D'accord.
Donc, j'y allais avec ma famille le dimanche.
Voilà. Donc, tu vois le fonctionnement. Donc, quand nous nous rassemblons, donc la prière, la lecture de la Bible, les échanges de la communion fraternelle, les témoignages, et ça se ponctue, ça se termine par un message. Trois fois par mois, il y a un mois en fait, et il y a une fois par mois où c'est juste partage, et c'était la semaine dernière. La semaine dernière, voilà. Et la Sainte Cène que nous avons prise, donc c'est quelque chose que nous pratiquons, nous respectons la parole de Dieu, d'autres l'appellent hostie. Bon, en fait, tout simplement, à l'origine, c'est le pain, c'est une brioche. Voilà. Donc mais c'est le message qui est derrière. Voilà. J'essaie de donner une petite explication pour savoir comment ça se passe. Je suis tombé où? Il n'y a rien d'autre. Voilà. Très bien. Et bien, le message d'aujourd'hui, donc, si je dois lui donner un titre, je dirais ce que le Seigneur a écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, il a écrit, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Voilà ce qu'il a dit le Seigneur à Marthe, la sœur de Lazare, et ce qu'il a répété aussi à Marie, qui est aussi la sœur de Lazare. On ne parle pas de la même Marie, bien entendu. Nous avons lu ce matin, ou plutôt Zach a lu une partie du chapitre 11 qui relate un peu cette histoire de Lazare. Les historiens s'en sont occupés, les théologiens, et après on se pose des questions. Est-ce qu'il vraiment existait ou pas? Je ne sais pas. Et on se pose même des questions scientifiques. Lazare, au bout de 4 jours, le corps a commencé à se décomposer. Comment il peut être ressuscité? Vous voyez? Parce qu'on sait que le corps commence à se décomposer au bout de 50 jours. Ça, c'est la science. Quand on met un corps dans un tombeau ou n'importe, au bout de 50 jours, il commence à se décomposer. Et, mais là, c'est 4 jours. Et pourtant, le Seigneur a ressuscité. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas dans un échange scientifique sur la décomposition du corps, ça ne nous concerne pas. C'est le message qui derrière. Si cette histoire est relatée dans l'évangile de Jean, c'est certainement pour nous enseigner, en tant que chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église. Donc, je ne vais pas vous relire le chapitre 11 du verset 1 à 45, mais vous connaissez l'histoire que nous avons lue en début de notre rassemblement ce matin. Mais je rappelle juste quelques éléments. Donc, Jésus, il était à Béthanie, donc c'est un village qui se trouve à côté de Jérusalem. Béthanie, il était souvent accueilli par des disciples, pas spécialement les 12, mais ceux qui croient en lui. Et surtout, en l'occurrence, on est en présence d'une famille qui l'a accueilli chez lui. Et cette famille, c'est Marie, Marthe, les deux sœurs de Lazare. Il est même dit que c'est une famille qui aime le Seigneur les aime. Et dans un message précédent, on a vu que Béthanie, qui est le nom de du village où le Seigneur se rendait quand il voulait se reposer, ça c'est très intéressant, quand le Seigneur veut se reposer, il va où? Il ne va pas à Jérusalem, il va à Béthanie, dans une petite ville. Pourquoi il va se reposer? Parce qu'il y a une famille là-bas qui l'accueille et qui fait de lui quelqu'un de précieux. Il le servait jusqu'à le parfumer. Vous vous rendez compte? Et on a mis un parfum qui coûte très cher. C'est que le Seigneur avait une place très importante dans cette famille-là. Béthanie, dans la Bible, c'est le symbole de l'Église. C'est comme s'il disait, c'est quoi l'Église aujourd'hui? Il suffit de lire Béthanie. Si on voulait savoir ce que c'est que l'Église, c'est Béthanie. Béthanie est le symbole de l'Église tel que le Seigneur la veut, tel que le Seigneur la désire. Le nom même de Béthanie, on l'avait déjà évoqué, Béthanie, il fait allusion à l'une des raisons par lesquelles Jésus demeurait si fréquemment dans ce petit village. Un petit village obscur, retiré. Personne n'y fait attention. Et pourtant, le Seigneur va habiter là-bas. Vous voyez? Ce qui est rejeté, ce qui est mis de côté par les gens, eh bien, c'est le Seigneur, c'est là où il veut aller habiter. C'est pas dans nos cathédrales, dans nos je ne sais quoi, ça attire. Notre-Dame de Paris, non. Il va dans les lieux où personne n'y pense, quelque chose de méprisé. Béthanie, ce mot hébraïque, qui veut dire maison d'affliction, maison de pauvreté. Voilà le sens de Béthanie en hébreu. Maison de pauvreté. C'est-à-dire là où il n'y a rien. On a l'impression qu'il n'y a rien. Quelque chose de méprisé. Personne ne veut y aller. Le monde n'en veut même pas. Et pourtant, c'est là que Jésus va habiter. Béthanie, c'est une maison où on trouve la pauvreté. Il y a un brisement, il y a des sacrifices, il y a un dépouillement qui se fait. Et c'est là que Jésus va se reposer. Premier enseignement pour nous, pour l'Église. Le dépouillement, le brisement. C'est cette humilité qu'il faut rechercher, c'est là où le Seigneur aime se reposer. Dans les Béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 6, je vous laisse les lire, mais vous verrez que tout ce que je suis en train de vous dire sur Béthanie est écrit dans les Béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux les affligés, car ils seront consolés, etc., etc., etc. À Béthanie, c'est-à-dire à l'Église de Dieu, telle que l'Église, et quand je parle d'Église, je ne parle pas de bâtiment, vous avez compris. Donc, il y a plus de 2000 ans, les premiers chrétiens qui étaient persécutés n'avaient pas de bâtiment que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de bâtiment. Les bâtiments sont venus trois siècles après. Ils se réunissaient en maison, dans leur maison. Les chrétiens se rassemblaient dans une maison, ils commençaient à louer le Seigneur, le prier. C'était l'Église. C'est cela l'Église, tout simplement. À Béthanie, le Seigneur trouve un accueil. À Béthanie, on trouve un amour mutuel. La famille Marie, Marthe, Lazare aimaient le Seigneur et le Seigneur les aimait. Il y avait un amour mutuel. Cette proximité avec le Seigneur est réelle et vivante à Béthanie dans cette famille. Je vous lis, toujours je suis dans le chapitre 11. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Vous voyez? Il aimait cette famille-là. Il est même dit plus loin, quand il a appris que Lazare était mort, Jésus pleura. Vous voyez? Il y avait une proximité, mais humaine. Un Seigneur qui vient au secours de cette famille, qu'il aime profondément, parce que il vient de perdre Lazare, qui était aimé de sa famille. Et figurez-vous, vous savez Lazare, ce que ça veut dire, Lazare, vous voyez, tout a un sens dans la Bible, et tout a un message derrière. Eh bien, Lazare, c'est la même chose, c'est Éléazar aussi, on trouve ce prénom hébraïque. Donc, en hébreu, Lazare, Eliazar, veut dire Dieu a secouru. Vous voyez? C'est un sens, encore une fois. Dans cette famille, il y a un Lazare. Dieu secourt. Dieu est là. Il vient en aide à cette famille. Parce qu'il y a un amour mutuel. Ils aiment le Seigneur et le Seigneur les aime. Mais pourquoi? Parce que, à travers ces femmes, ils ont reçu le Seigneur. Ils l'ont accueilli jusqu'à lui offrir ce qui est le plus cher, un parfum d'albâtre qui coûtait très cher. L'amour est le fondement de l'Église. Et nous en avons parlé ce matin. L'amour est le fondement de l'Église. Un amour entre frères et sœurs qui tire sa substance de l'amour entre le Seigneur et son Église. Une Église où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas d'Église, il n'y a pas d'amour mutuel. En tant que chrétiens, nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. Et parce qu'il nous a aimés le premier, nous pouvons nous aimer entre nous. Un amour qui vient nous habiter quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Matthieu, chapitre 22, versets 35-39. Et là, c'est le Seigneur qui répond à une injonction, à une question. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question. Hein? Un des docteurs de la loi, un juif qui est érudit, hein? Qui pose la question au Seigneur Jésus pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Vous voyez, d'abord l'amour de Dieu et le deuxième. Et voici le second, le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il n'y a pas d'amour horizontal entre nous, c'est que quelque part, nous comprenons pas, nous réalisons pas, nous n'expérimentons pas qu'il y a un amour vertical, Dieu vers nous et nous vers Dieu. Donc le principe de vie d'une église est d'abord l'amour entre frères et sœurs, ancré dans l'amour de Dieu. Un amour qui tire sa substance de l'amour du Seigneur pour son Église. 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 9, je vous lis. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. La plus grande preuve d'amour de Dieu envers nous, c'est qu'il a envoyé son Fils payer le prix à notre place, jusqu'à donner sa vie. Et si nous réalisons cet amour divin, nous ne pouvons que nous aimer les uns les autres. Nous ne pouvons pas faire autre chose. Sinon, nous ne méritons pas l'amour de Dieu pour nous. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Encore une fois, une lecture, une parole dans la Bible, dans Éphésiens, chapitre 3, verset 19. C'est cet amour qui lie le Seigneur et son Église, qui pousse le Seigneur à dire à Marthe, dans notre lecture du chapitre 11, à propos de son frère Lazare, « Ton frère ressuscitera. » Oui. Tout est basé sur l'amour. « Ton frère ressuscitera. » Et voilà, à travers la résurrection de Lazare, un deuxième principe céleste apparaît. Le premier, c'est l'amour. Et le deuxième, c'est la résurrection et la vie. Donc, vous voyez le lien ? Pour qu'il y ait résurrection, vie, il faut qu'il y ait amour. On ne peut pas les dissocier. Ça va ensemble. Par le miracle de Lazare, le Seigneur va nous montrer que la résurrection n'attend pas le monde futur. Nous pensons que la résurrection, c'est après la mort. Et d'ailleurs, Marthe et Marie le croyaient aussi. Puisque quand il leur a dit, bon, il va ressusciter, il leur a dit oui, le dernier temps, après, le dernier jour, il va ressusciter. Le Seigneur leur dit, la résurrection n'attend pas la mort. On peut ressusciter dans notre vie de tous les jours. La résurrection commence ici-bas, dans ce monde. C'est une résurrection à une nouvelle vie, avec et en Christ. C'est ce que la Bible appelle nouvelle vie avec le Seigneur, ou encore nouvelle création, ou encore nouvelle créature, ce que vous voulez. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Voilà ce qu'écrit l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une résurrection. La résurrection est un principe spirituel, vital de l'Église. C'est un principe dont les effets, les fruits, sont concrets, certes, et progressifs. Il s'agit de la résurrection intérieure, dans chacun de nous, qui s'opère en nous et qui nous transforme concrètement et progressivement. Parmi les effets de la réception de notre Seigneur, parmi les fruits d'être chrétien, c'est cette transformation qui se fait en nous d'une manière progressive, c'est une résurrection intérieure. Mais il faut savoir si résurrection il y a, elle est précédée d'une mort. Sinon, à quoi ? Il n'y a pas de résurrection. Pour être ressuscité, il faut mourir. Je ne peux pas passer directement la résurrection sans passer par la mort. Ça va de soi. Si vous voulez, même c'est la logique. Et combien de nous cherchant la résurrection sans passer par la mort? Nous voulons les fruits de l'esprit. Nous voulons tellement de choses. Mais sans passer par la mort, il y a un prix à payer. Je parle pas d'une mort physique, bien entendu. Je ne me demande pas ce qu'on soit cloué à la croix. Mais non. Est-ce qu'on est prêt à mourir à nos priorités? Est-ce que des choses qui sont tellement importantes pour nous, qui prennent la même place que Dieu, est-ce qu'on est prêt à mourir à cela pour bénéficier de la résurrection? Ou est-ce que nous voulons directement la résurrection sans payer le prix? On ne parle de la résurrection du Seigneur que parce qu'il est d'abord passé par la mort de la croix. C'est l'amour du Seigneur pour son Église qu'il rend ce principe fondamental pour l'Église. Je suis prêt à payer le prix parce qu'il y a l'amour. Parce que j'aime Dieu. Parce que Dieu m'a aimé le premier. Et parce que j'aime mes frères et sœurs. Pour cela, je suis prêt à payer le prix. Matthieu chapitre 16, versets 24 et 25. Voilà le Seigneur ce qu'il a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il ne s'agit pas de tout perdre, de tout rejeter, non. Mais seulement dans tout ce que je fais, je me laisse Seigneur en premier. Remarquons l'attitude du Seigneur quand il a appris que Lazare était mourant. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il s'est dépêché pour aller le ressusciter? Pas du tout. Il est écrit, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il ne s'est même pas précipité pour aller le soigner ou le ressusciter. Ce message peut susciter une impression d'un certain désintéressement du Seigneur. Ce n'est pas sa priorité, peut-être. On peut penser ça. Comme si le Seigneur ne voulait pas le ressusciter ou lui éviter cette mort. Ça peut être vrai. Si le Seigneur ne dit pas plus loin à ses disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Oui. Il est patient, notre Seigneur. Nous, on gigote. Il faut que ça se passe bien, là, parce que, oh là là, je m'inquiète. Reposez-vous. Restons 2 jours, tranquille. Il va ressusciter. C'est exactement la même chose sur la barque. Quand les disciples commençaient à s'agiter parce qu'il y a le vent, tout ça, ça paniquait de partout. Il est écrit que le Seigneur dormait. Et après, quand il l'ont réveillé, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Il a calmé la tempête. Voyez, c'est deux mondes complètement différents. Nous, les humains, et notre Seigneur qui est divin. pourquoi le Seigneur ne se précipite pas pour aller sauver Lazare? On peut se poser la question, moi je pose la question. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre en fait. Voilà, je suis arrivé à ça. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous cherchons souvent à imposer à Dieu notre temps, nos solutions, nos pensées, nos désirs, et on les justifie même des fois par la prière. Et on dit pourquoi il n'intervient pas. Il faut qu'il intervienne tout de suite. Et pourtant, la Bible nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, et ses voies ne sont pas les nôtres. Au lieu d'attendre les effets, ce qu'il doit faire le Seigneur, intéressons-nous à qui il est, et nous serons dans le repos. Dieu maîtrise tout, il est souverain, il prend contrôle de toutes choses. Et là je lis, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà là depuis 4 jours, dans le sépulcre. Il commence à se décomposer. Il n'y a plus d'espoir, c'est le désespoir total. Pas pour lui, pour les autres. Tout semble fini, il est trop tard, il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus rien faire. C'est souvent le cas dans notre vie. Et j'en suis sûr, si on s'examine, s'auto-examine, j'en suis sûr que chacun de nous trouvera au moins une occasion que c'était perdu d'avance. On ne sait plus. Et c'est seulement là que le Seigneur intervient. C'est souvent le cas dans notre vie. On croit que tout est fini. On maîtrisait les choses et voilà que tout semble fini. Le désespoir. Le Seigneur permet des fois que la mort fasse son œuvre avant qu'il ressuscite. Des fois, il trouve que ce n'est pas assez. L'instant, la mort fait son œuvre. C'est ce moment-là, il intervient. Peut-être pour nous déstabiliser, pour nous briser, nous rendre faibles, de nous détourner notre regard de nous-mêmes, nous désorienter afin d'orienter notre regard vers lui, afin de fixer nos regards sur lui, comme l'a fait Pierre quand il marchait sur les eaux. Il ne fixait que le Seigneur, il marchait comme le Seigneur sur les eaux. Dès qu'il commençait à se regarder, il coulait. Ce n'est pas pour autant qu'il l'a abandonné, le Seigneur, parce qu'il y a quand même tendu la main pour le sortir. Remarquons, le Seigneur, au lieu de dire à Marthe, « Je ressuscite ton frère », c'est ce qu'elle attendait, « Je ressuscite ton frère », il déclara, « Ton frère ressuscitera ». Comme si quelque chose, c'est naturel, ça va arriver. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que c'est pour moi le passage le passage clé de ce que nous avons lu dans le chapitre 11, c'est ce qu'il a dit par la suite. Il n'a pas dit à Marthe, je vais ressusciter Lazare, mais il a dit, Lazare ressuscitera. Pourquoi? Parce que, et là je vous lis ce qu'il a dit, le Seigneur, je suis la résurrection et la vie. Peu de temps après cette déclaration, il ressuscita en effet Lazare. Dieu a secouru. Il nous paraît plus approprié que le Seigneur Jésus leur dise « Ne vous inquiétez pas au sujet de votre frère qui est mort, car je peux le relever, je peux le ressusciter. » Mais il n'a pas dit ça. Nous aimons entendre de telles paroles, et moi le premier. Nous aimons que Dieu fasse toujours plus pour nous. Et nous l'espérons. Nous voulons qu'il fasse tout pour nous. Souvent nos prières et notre attitude devant Dieu expriment le désir que le Seigneur fasse ceci et cela pour nous, pour moi. Cependant, ce que le Seigneur désire particulièrement, c'est que nous réalisions que le plus important n'est pas ce qu'il peut faire pour moi, mais ce qu'il est lui-même. Est-ce que le plus important, c'est que j'attends ce qu'il me donne, ou est-ce que le plus important, que je le connaisse lui, la source de ce qu'il donne? Car ce qu'il a fait a pour fondement ce qu'il est. C'est la foi en lui qui nous nourrit. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Lui, pas ce qu'il nous donne. Ce que le Seigneur Jésus veut nous donner, veut nous dire, c'est non seulement qu'il peut garder la vie de quelqu'un, mais qu'il est lui-même la vie. Qu'il peut relever le mort, mais qu'il est lui-même la résurrection. Voyez la différence. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir ce que le Seigneur est et ne pas nous contenter seulement de ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur est la résurrection. Il le dit lui-même, je suis la résurrection. Alors que nous réduisons le Seigneur à celui qui fait la résurrection. Nous nous intéressons aux conséquences de ce qu'il fait. Les effets, nous oublions celui qui est la source de la conséquence. Et c'est ce qu'il a rappelé à Marthe. Ton frère sera ressuscité parce que je suis la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection pour Lazare. Et c'est pour cette seule raison que Lazare est ressuscité. C'est pas parce qu'il a ressuscité de devenir sa résurrection, c'est parce que Lazare sait que Jésus est sa résurrection. Dans cette réalité-là, le fruit est sorti, il est ressuscité. De même pour nous. Nous pouvons expérimenter les fruits et la puissance de la résurrection dans notre vie de tous les jours si nous accueillons le Seigneur comme notre résurrection et non seulement faiseur de miracles. Et si nous accueillons le Seigneur comme notre résurrection, alors il nous fera cheminer à travers la croix pour expérimenter d'abord la mort et donner sens à la vie de la résurrection. Il est notre résurrection, le Seigneur. Il est notre chemin. Il est notre vie. Il est notre vérité. Lui-même l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je vous donne le chemin. Je vous guide vers la vérité. Non. Il a dit, tout cela, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous est bon de comprendre que toutes les œuvres de Dieu en Christ sont renfermées dans ce principe de mort et de résurrection. Qui donne la vie. C'est uniquement parce que le Seigneur est cette chose en nous, hein, c'est d'abord parce que le Christ il est en nous par l'Esprit, c'est parce que le Seigneur est cette chose en nous que nous avons cette chose. Vous voyez, les effets tirent source du Christ. Premièrement l'être et après seulement l'avoir. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Colossiens, il leur dit dans chapitre 2, versets 9 et 10, car en lui, c'est-à-dire en Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est ce Christ que nous avons en nous. Nous avons tout pleinement en lui. Nous croyons que le Seigneur releva Lazare d'entre les morts, mais ici, l'accent est mis sur l'importance d'avoir le Seigneur lui-même. Mes frères et sœurs, recherchons le Seigneur lui et lui seul. Mais ne le réduisons pas à ce qu'il nous donne. La santé, tout ce qu'on veut, la résurrection, la vie. Ça, c'est les effets, ça. Mais les effets nous font oublier la source. La source, c'est Christ. Et bien, c'est pour ça. Dans nos prières, dans nos lectures, dans nos pensées, il ne faut chercher que le Seigneur et le Seigneur seul. Bien entendu, tout le reste deviendra une conséquence. Parce que ça vient du Seigneur. La résurrection de Lazare fut sans aucun doute extraordinaire. Et ça a attiré les Juifs. Quand il y a un miracle, tout le monde venait. Regardons les miracles. Et même aujourd'hui, quand il y a des miracles, même quand on va à Lourdes, tout ça, on parle des miracles. On est attiré par les miracles. On oublie la source. C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Connaître le Seigneur Jésus comme la résurrection, c'est quelque chose qui a une très grande signification. Beaucoup de gens peuvent croire que le Seigneur Jésus est celui qui donne la vie. Mais croire qu'il est la vie, c'est encore mieux. Il n'est pas seulement le donateur de la vie, le Seigneur. Il est aussi la vie. Il est à la fois la vie qu'il donne à celui. Il est non seulement la vie, et il y a celui aussi qui donne la vie. Il est à la fois le Seigneur de la résurrection et la résurrection elle-même. Mes frères et sœurs, nous devons chercher le Seigneur et le Seigneur lui-même tout seul, lui seul. Et en le cherchant à le connaître dans la prière, dans la lecture de la Bible, ça devient une habitude, on va découvrir qui il est. Et sans nous rendre compte, les effets seront dans notre vie. Faire l'inverse, c'est qu'on met le Seigneur dehors. Sans se rendre compte souvent. Sans se rendre compte dehors. Parce qu'on est attiré, parce que ce qui nous touche, ce qui est extraordinaire, les miracles, tout ce qu'on veut. Mais en faisant cela, on laisse le Seigneur dehors. Comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'église de Laodicée. Attiré par les phénomènes, attiré par les... Je veux faire pour le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait pour moi, etc. Mais je laisse le Seigneur dehors, et là, il y a un rejet mutuel. Ce que Dieu donne aux hommes, c'est Christ lui-même. Le Seigneur nous a donné Christ. Et nous avons tout avec lui. Nous manquons de rien. Cherchons le Seigneur. Et il nous montrera cette richesse que nous avons en lui et qu'il a en nous. Nous espérons que nous aurons au moins un rayon de lumière qui nous fera réaliser que le Seigneur est tout pour nous. Quand j'entends dans des églises aujourd'hui, j'en ai connu depuis 30 ans, en cours derrière les miracles, je veux voir des miracles, je veux voir si... Mais la Bible nous dit, courez, comme l'a fait Marthe, vers le Seigneur. Et quand elle a couru vers le Seigneur, nous l'avons vu tout à l'heure, il s'est révélé à elle comme étant la résurrection, la vie. La résurrection et la vie englobent toute la Bible. Si vous lisez la Bible de la Genèse de l'Apocalypse, et bien si vous devez mettre un titre à la Bible, la résurrection et la vie. Et qui dit résurrection, il y a mort. Donc acceptons à mourir à nos priorités. Laissons le Seigneur ressusciter en nous parce que nous sommes en communion avec lui. Et ainsi nous découvrirons ce que c'est que la vie. Connaître la résurrection et la vie est donc une question d'une extrême importance. Et je termine par la lecture de quelques passages dans le chapitre 11. Et je vais lire le verset, chapitre 11 de l'évangile de Jean. Et je vais vous lire les versets 25 à 27. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et la même question se pose à nous. Croyons-nous cela ? Eh bien, Marthe a répondu. Voilà ce qu'elle a dit, Marthe. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Que la réponse de Marthe soit la nôtre. Amen. Amen.